Regarde-moi ça! J'ai l'impression de faire la dégustation. Ouh!
Ça, c'est de la vue, je crois! Ah, c'est magique, cet endroit!
C'est absolument dément.
Et le spot est juste incroyable.
Ça joue vraiment à quelques centimètres.
On va s'enfoncer un peu dans la forêt.
Bon, ok, bon, ok.
Tout le monde est absolument gentil.
C'est ça la vie. Numéro.
Bonjour internautes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Je t'emmène en voyage. Et aujourd'hui je t'emmène en tour du monde, donc jusque là ça on l'a déjà fait plusieurs fois. Je t'emmène en bateau en tour du monde, ça aussi on l'a déjà fait. Mais je t'emmène pour le premier tour du monde en bateau à énergie solaire avec l'éco-explorateur Raphaël Rongeant. Comment ça va?
Mais très bien, et toi Alex?
Écoute, je suis super content, ça va très bien, je suis très content de te recevoir parce que... J'adore le voyage, j'adore les explorateurs et en plus ce que j'adore en ce moment c'est les gens qui arrivent à explorer le monde avec cette conscience écologique qui doit faire de plus en plus partie de nos réflexes, même si on n'est pas parfait, même si on va pas l'être du jour au lendemain. Et en fait je trouve ça extraordinaire ce tour du monde dont on a entendu parler mais que je pense qu'il est important de remettre au goût du jour. Et pour qu'on comprenne bien déjà, moi c'est ce que j'aime bien comprendre avant de rentrer dans le détail technique, c'est... Qu'est-ce qui t'a donné envie vraiment, qu'est-ce qui t'a fait passer le pas de vouloir réaliser un tel projet? Parce que ce que je n'ai pas dit dans l'intro, pour faire ce premier tour du monde en bateau à énergie solaire, tu as dû construire le plus grand catamaran au monde, au passage. Tu vois, donc c'est pas genre tu t'es dit viens on le fait, on met un panneau solaire en haut du mât et ça va le faire. Il y avait quand même énormément de préparation. Qu'est-ce qui t'a fait passer à l'action? Qu'est-ce qui t'a dit vas-y, je suis obligé, j'ai vraiment envie de le faire?
Il y a deux choses. La première chose, c'est la constatation des changements climatiques. Ouais. J'ai beaucoup voyagé dans les régions nordiques, en l'occurrence en Islande, et j'ai vu un glacier totalement disparaître en 11 ans, entre un premier voyage en 93 et 2004. Et j'ai vu un glacier reculer d'à peu près 3 km, perdre plusieurs centaines de mètres d'épaisseur de glace. Et là, c'était une prise de conscience que les changements climatiques, ce n'était pas juste finalement des articles qu'on peut lire dans les journaux, des élucubrations de scientifiques un peu fous. Non, c'est une réalité, il se passe quelque chose. Mais j'avais aussi constaté que l'énergie solaire, ça fonctionnait. J'avais pu naviguer sur un bateau solaire, voir que naviguer sur un bateau solaire, on glisse sur l'eau. Alors, bien sûr, on n'émet aucun gaz polluant, mais en plus, c'est hyper confortable. C'est
pourquoi,
génial.
Pourquoi ça change quoi par rapport à un bateau à moteur?
Alors, le bateau un bateau à moteur.
Alors, effectivement, où on ne met pas du gros kérosène dedans.
Où on ne met pas de carburant fossile, finalement, où on récupère les rayons du soleil, mais c'est un bateau donc électrique d'abord, avec un moteur électrique qui n'émet pas de gaz polluant, qui ne fait pas de bruit. Donc, c'est extrêmement silencieux, plus silencieux que sur un voilier, parce qu'il n'y a même pas le bruit du vent dans les voiles, dans les drisses.
Ah.
C'est extrêmement silencieux, c'est super confortable. Et puis, vous naviguez avec la force du soleil. Enfin, c'est pour moi qui avais connu Esteban Zia, les merveilleuses cités d'or, je ne sais pas si tu te souviens.
Ah bah si, si, animé. Ça c'est ma génération ça.
C'est ta génération, c'est la mienne aussi. Solaris, ça m'avait déjà, ça avait émerveillé mes rêves d'enfant. Et bien là, c'était pour moi une évidence. Il y a des problèmes climatiques. Il faut bien sûr alarmer la société civile, il faut alarmer sur cette problématique les gens, mais ce qu'il faut aussi, c'est leur montrer des solutions. Et à l'époque, il y avait peu d'écologistes, on va dire, expérimentales et optimistes. Et moi, mon idée, c'était pas d'alarmer les gens sur la problématique du réchauffement climatique, c'était de leur montrer une solution tout en les faisant rêver, en leur disant, on peut faire des choses incroyables grâce à l'énergie solaire, on peut faire un tour du monde.
Et tu vois, c'est ça que je trouve fou, c'est de se dire comment je fais d'une problématique, parce que là on parle d'une problématique, là c'est un peu sur tous les journaux, avec le Covid c'est un peu passé à l'as, mais là on parle de 2004, donc c'est-à-dire que c'était les prémices du dérèglement climatique, du réchauffement de la planète, et en fait tout de suite c'est ok, il y a un problème, mais en fait quelqu'un qui lui donne un problème, ça va le faire paniquer, ça va le faire stresser, il va se dire ok, enfin c'est un peu regarder le journal de 20h et se retrouver avec tous les faits divers, t'as pas de solution, c'est que... très alarmiste. Toi, tu as voulu tout de suite passer à l'action et se dire, en plus avec ce petit rêve d'enfant, on a toujours besoin d'un petit feu intérieur, une espèce de foi, tu sais, quand t'es gamin qui va te pousser à réaliser un rêve qui est plus grand que toi. Et pour tous les enfants qui peut-être nous écoutent ou les gens qui ont un rêve en tête, j'aimerais qu'on rentre dans le côté pratique. Ça a été quoi les étapes de préparation, de réalisation pour monter ce projet avant de partir en mer? Que les gens, ils se disent... Ok, le mec a construit un bateau, c'est-à-dire comment on fait? C'est quoi les étapes clés? Comment ça se passe?
Alors, la première chose, hein, lorsque j'ai eu cette idée, bah, c'était en Islande, devant les réseaux glaciers. Et puis, bon, je me suis dit, faire un tour du monde en bateau solaire, ça pourrait être incroyable. On peut aller au cœur des villes, proche des gens. OK, mais il fallait savoir si c'était d'abord réalisable. Donc, on a fait la première étape, une étape qui était une étude de faisabilité avec une école d'ingénieurs en Suisse, l'école d'ingénieurs d'Yverdon, où on a planché donc sur les questions météorologiques. OK, on a imaginé des bateaux d'une certaine taille. Qu'est-ce qu'ils pouvaient consommer? Qu'est-ce qu'on allait pouvoir recevoir comme énergie? Et on a regardé, est-ce que c'est déjà physiquement réalisable?
Sur le papier, tu veux dire, quand tu dis, ok, s'il y a telle taille, on arrivera à capter tant d'énergie, donc ça veut dire que par jour, on peut cumuler tant de kilomètres ou de distance. Et en gros, si les calculs, ils disaient, faut que tu aies un bateau de 200 mètres sur 200 mètres, tout de suite, ça allait être compliqué, je pense.
Oui, surtout qu'en fait, alors effectivement, c'était l'idée de trouver la taille du bateau optimum parce que sur Terre, les surfaces augmentent au carré, les volumes augmentent au cube. Donc, c'est-à-dire que quand on augmente la taille d'un navire, on augmente la surface des panneaux solaires au carré, mais le volume au cube. Donc, à un moment donné, de faire un bateau trop grand, il devient défavorable. Sa taille devient défavorable, il y a trop de poids par rapport au mètre carré à disposition. Donc, en fait, il y a une taille idéale. Après, on a fait des études météo. Qu'est-ce qu'on pouvait avoir comme météo? Voilà, quelle vitesse on pouvait avoir? Alors, très vite, on a pu voir que bah, c'était réalisable. Certes, c'était un peu à ce moment-là, ça restait un challenge. Hein. C'était pas sûr qu'on réussisse. Et c'est ça qui est sympa, hein, c'est de faire un truc qu'on n'est pas sûr de réussir. Mais voilà, donc, première étape, étude de faisabilité. On avait la taille d'à peu près d'un bateau, 30 mètres de long, une vitesse approximative pour réussir. Et puis ça nous a donné aussi après un prix, hein, qu'est-ce que ça coûterait de faire un bateau de cette taille. Et puis bah, la deuxième étape, ça a été de trouver l'argent. C'était ça la deuxième
Bien
étape.
sûr, et pour comparer, j'aime bien comparer un yacht un peu de luxe, tu sais, les yachts de luxe où tu vas juste finalement être dans ton jacuzzi et t'as 3 mecs et 77 personnes à bord juste pour le personnel. Je crois que ça, c'est des choses qui valent tout de suite 50, 60 millions d'euros facilement, je dis pas de bêtises, tu t'y connais plus en bateau que moi. En comparaison, un bateau expérimental qu'il faut faire de A à Z, ça va chercher quoi? C'est 200 millions? C'est 300 millions? C'est combien? C'est 1 milliard? Je me rends pas compte.
Non, alors non, c'était beaucoup moins que ça, même si ça restait quand même beaucoup d'argent, hein, il a fallu le trouver.
Bien sûr.
C'était donc tout le travail de recherche, de
C'est ça en
conception et de
fait.
construction du bateau, ça a coûté à l'époque 20 millions d'euros. C'est ce qu'a coûté la construction, le développement de Planète Solar, 20 millions d'euros. Ce qui est quand même beaucoup d'argent, surtout quand voilà, on est un jeune aventurier avec. Alors j'ai bien un compte en banque en Suisse parce que je suis suisse, mais il est plutôt vide, vous voyez, donc mon compte en banque. Donc fallait trouver, c'était la première étape, hein, le financement, donc des partenaires, des gens qui s'engageaient à mes côtés pour pouvoir financer un tel projet.
C'est quoi? Tu sais, moi j'aime bien aussi la transmission. Je trouve ça super important de dire, t'as fait un truc extraordinaire, mais peut-être que grâce à ton projet extraordinaire, tu vas en inspirer 10, 20, 100 autres. S'il y a des gens qui ont des projets en tête qu'ils ont envie de réaliser pour le bien de la planète, en tout cas on espère, c'est quoi, selon toi, les clés, les quelques clés qu'il faut avoir pour aller présenter un projet et être convaincant et de se dire, on va réussir à convaincre des personnes de nous financer?
Il y a un certain nombre de choses qui me paraissent importantes. La première, c'est d'être sincère, dans une démarche sincère. À mon avis, c'est ce qu'il y a de plus important. Ensuite, il faut être capable d'emmener nos futurs partenaires, nos futurs
Dans
compagnons
l'aventure.
d'aventure avec nous. Hein. Donc, il faut les faire rêver. Il faut leur mettre des étoiles dans les yeux. Allez, on va faire une super aventure. Puis après, il faut le montrer l'intérêt, bien sûr. Pas seulement le rêve, mais aussi l'intérêt économique ou l'intérêt pour la société. Hein.
Technologie,
Donc, voilà, donc le
sociétale.
développement de technologies sociétales, développement d'une autre prise de conscience, améliorer nos connaissances. Hein. Les projets qu'on réalise, que je réalise, ce sont des projets d'écologie expérimentale. Et c'est ça qu'il faut réussir à démontrer et montrer aussi l'intérêt pour l'entreprise. Donc, si c'est des entreprises qui nous soutiennent, il faut bien sûr qu'il y ait un intérêt pour l'entreprise. Donc, il faut aussi comprendre
Bien sûr.
l'entreprise, le partenaire avec qui on est en train de discuter, quel est son intérêt économique à rentrer dans un tel projet? Ça, c'est important. On ne peut pas être seulement dans le rêve et dans l'altruisme. Hein. Il faut aussi un peu, je dirais,
Ouais,
une
c'est.
certaine conscience avec les réalités économiques.
Mais je pense que c'est un vrai schéma qui est important de plus en plus à intégrer comme un réflexe, que ce soit business, que ce soit créatif. C'est quand tu fais quelque chose avec quelqu'un, c'est ce qu'on appelle le win-win, le partenariat win-win. C'est qu'est-ce que lui va m'apporter, mais qu'est-ce que je peux lui apporter? Parce que du coup, c'est une énergie qui circule. C'est ok, je t'apporte peut-être une nouvelle technologie, mais du coup, toi, tu vas pouvoir financer ça et on va avancer ensemble. Tu auras de la visibilité, tu auras des choses, tu seras un pionnier. Il faut pas arriver, je pense, et il y a beaucoup de gens qui ont des beaux projets, mais ils pensent à se dire j'ai un super projet, il faut que tu m'aides, mon projet est génial. Mais ils se mettent pas à la place de l'autre. Et finalement, c'est compliqué parce que chacun aussi a ses problématiques, chacun doit rendre des comptes. Et intégrer ça dans la conception de son projet, comme tu disais, c'est de se dire, ok, on a ce projet-là, comment on peut intégrer des gens à qui ça va servir aussi? Et comment on va aller chercher après ces gens-là? Donc ça, ok, super important à retenir. Maintenant, pour
bon, ça, c'est peut-être un petit peu de manière, ce que tu dis là, ça me paraît une généralité d'ailleurs extrêmement importante dans notre vie, que ce soit dans notre vie en tant que professionnel, hein, être capable de se décentrer, ouais. Capable de penser aussi à qu'est-ce que l'autre, qu'est-ce qui est important pour l'autre. Ça, c'est valable dans la vie professionnelle, c'est ouais. Valable aussi dans notre vie amoureuse, avec nos amis, avec notre famille. C'est quelque chose qu'il faut être capable de faire. Et si on arrive à faire ça, c'est aussi important pour le futur de notre civilisation. Parce que le problème aujourd'hui environnemental, c'est que souvent, on n'est pas capable de se décentrer. On pense à nous-mêmes ou à Homo sapiens, soit notre économie ou à des questions de santé publique, mais on doit se décentrer pour essayer de penser aussi à la biodiversité, à la planète et au climat. Et ça, c'est quelque chose qui est important.
J'adore, je vais reprendre un exemple qui est très futile et un peu, j'aime bien le côté grotesque de ça, mais pour moi, ça reflète tout. C'est quand on a eu les demandes, enfin voilà, la loi dit on est en confinement, au lieu de se dire, comme tu dis, on va être chacun dans « je prends un peu pour moi, mais ce dont j'ai besoin, et pas plus, et comme ça, chacun peut avoir », il y a des mecs qui ont fait des montagnes de papier toilette. Alors, j'ai pas compris le coût du papier toilette parce qu'il faudrait juste qu'ils aillent dans les pays musulmans ou en Asie, ils vont comprendre qu'en fait, avec un petit peu d'eau, tout va bien. Mais c'est ce côté où je prends, en fait, je m'en fiche, il n'y en a plus pour les autres. Et je trouvais que c'était, en fait, ça reflétait une mentalité que tu viens de décrire. C'est ce côté où, réflexe d'abord, si moi je suis bon, bah après je regarde, bon, après les autres, on verra. Et c'est pas comme ça qu'on avance ensemble. Et je trouve que du coup, ben, c'est super important d'intégrer ça dans le fait de créer un projet, d'aller le défendre et aller chercher des partenaires. Maintenant, pour tous ceux qui n'ont pas encore vu ce bateau, Solar Stratos, non, rien que le nom déjà, il te donne envie. Et d'ailleurs, évidemment, pour tous ceux qui voudront aller voir toute l'épopée de Solar Stratos, toutes les photos, à quoi ça ressemble, les liens sont dans la description du podcast. Je le dis d'avance, mais je leur dirai. Avant ça, vu que c'est une expérience audio, j'aimerais que si chacun met un casque de réalité virtuelle sur la tête et que c'est toi qui vas recréer l'environnement, à quoi il ressemble ce bateau et surtout à quoi il ressemble de l'intérieur? Alors, décris-nous tout ça pour qu'on puisse, tu vas être un peu un de tes moussaillons.
Alors le bateau, mon aventure avec le bateau, c'était Planète Solar.
Ah, c'est Planète Solar.
Planète Solar, Alex. Solar Stratos, c'est la nouvelle aventure actuelle qui est dans la stratosphère à énergie solaire. Ça, c'est un avion. Oh. Donc, le voyage le tour du monde en bateau.
J'ai fait un spoiler sur la nouvelle aventure. Mais ça, c'est une super transition pas voulue et ça, j'adore.
Excellent. Voilà, donc c'était Planète Solar.
Planète
Solar. Et donc, c'était un navire, un catamaran qui faisait 30 mètres de long, 15 mètres de large, qui avait des ailes solaires qu'on pouvait déployer. Ça nous amenait jusqu'à 25 mètres de large, hein, donc plus de 500 mètres carrés de panneaux solaires. Hein, donc, c'était vraiment incroyable. Et d'ailleurs, sur ces panneaux solaires, plusieurs fois, lorsqu'on traversait le Pacifique, on a mis nos matelas de nuit, bien sûr, hein, parce qu'il n'y a pas d'impact. Et on dormait sur les panneaux solaires avec voilà, la tête dans la voie lactée, des étoiles filantes qui te passent sous la tête quasiment toutes les minutes. Donc, c'était vraiment un bateau assez incroyable avec deux hélices qui étaient à moitié immergées. Et puis, sous ces panneaux solaires, 300 mètres carrés, 6 cabines. Ma cabine était plus grande quasiment que mon appartement.
J'avais une
salle de bain.
C'est fou parce que quand on regarde, on a l'impression qu'il n'y a pas de place. Tu sais, parce que ce qu'on ne dit pas, c'est que c'est plat. Le toit, on va dire, du bateau, je ne sais pas comment, le pont du bateau, mais c'est vraiment c'est une plaque, c'est comme une table. C'est tout pour mettre, bah, évidemment, tous les panneaux solaires. Mais du coup, de visu, quand tu regardes du dessus, on a l'impression qu'il n'y a pas de place. Et là, tu me dis qu'il y a 300 mètres carrés en dessous.
300 mètres carrés habitables, donc on avait une cuisine, on avait un
home cinéma,
vraiment beaucoup d'espace, des cabines, on avait trois salles de bain, on avait vraiment, non, c'était extrêmement confortable, tout ça à l'énergie solaire, hein, plus vraiment une marina qui était aussi extrêmement, non, c'était génial, on s'est fait des grillades, c'était vraiment incroyable qu'on a par exemple traversé le Pacifique, ouais. Tous les soirs on a fait tous les James Bond, on a traversé le Pacifique, ça a été un mois, entre les Galapagos et les Marquises, on n'a vu aucun signe de vie pendant 25 jours, 6000 km seul, on n'a vu aucun signe de vie humain, ni un avion, ni un autre bateau, absolument rien. C'est vraiment une expérience extraordinaire. Et on avait une salle de cinéma de projection avec un bimer.
Ah, mais
et
vraiment, je disais pour rigoler, c'est vrai en plus.
C'est vrai, voilà. Et tout ça qui fonctionnait uniquement à l'énergie solaire, hein, donc sans la moindre, on n'avait pas une goutte de carburant à bord de
c'est
notre.
C'est ça que j'allais dire. Donc il n'y avait pas un espèce de moteur de backup, genre, bon, allez Jeannot, vas-y, mets le contact là, on n'a plus rien. Non, c'était juste l'énergie solaire.
Alors, c'était juste l'énergie solaire. On n'avait pas de backup. Et pour la petite histoire, bien sûr, beaucoup de gens avaient prédit qu'on allait couler à la première tempête. Lorsqu'on traversait le golfe de Bengale, tu as beaucoup voyagé, donc je sais que tu sais exactement où ça se trouve, mais pour les gens qui nous écoutent, je vais leur dire, je vais resituer l'endroit, c'est entre la Thaïlande et le Sri Lanka. C'était pour nous notre dernière, on va dire, traversée océanique. Il y a des îles là qui sont d'ailleurs extrêmement
Ouais.
belles, totalement fermées, les îles d'Andaman. On
Andaman,
venait de
les îles
passer ces
d'Andaman.
îles, Andaman, voilà, on venait de passer ces îles. On avait pu s'arrêter d'ailleurs 24 heures pour recharger nos batteries, c'était extraordinaire. Et on a croisé un bateau de pêcheurs du Sri Lanka qui était en panne sèche. Donc c'est nous qui avons porté assistance à un bateau qui fonctionne au fioul. Et donc voilà, nous, le soleil, il est toujours là. Donc il suffisait de faire attention à ne pas utiliser trop d'énergie. On utilisait ce que le soleil nous mettait à disposition et on a fait un tour du monde, 60 000 kilomètres. De Monaco jusqu'à Monaco, en traversant tous les océans, sans être jamais en panne d'énergie.
Ça a pris 2 ans, c'est ça, le tour du monde?
Un peu moins. On est parti le 27 septembre 2010 et on est arrivé le 5 mai 2012 à Monaco. Donc, on a mis à peu près une année et demie, en sachant que la moitié du temps, on était en escale. Le but, c'était de faire rêver les gens. Hein. Donc,
Bien sûr.
on était en escale,
Ah,
on s'arrêtait dans pas mal d'endroits.
Ok. Il y avait toute cette partie, on va dire, médiatique, de transmission, d'expliquer le mécanisme de comment ça fonctionne, de qu'est-ce qui se passe. Et justement, je reviens sur la remarque que tu as dit. Il y a des gens qui nous ont dit on va casser à la première tempête. C'est vrai que le bateau, bah, surtout un panneau solaire, on pense tous que c'est ultra fragile, que ça va se briser à la moindre petite, on va dire, impact ou en tout cas sollicitation de flexion. Comment ça se passait? Vous étudiez énormément le climat pour surtout pas être dans des tempêtes ou de toute façon, t'es obligé avec l'océan de passer à travers des tempêtes et que finalement ça s'est très bien passé.
Alors bien sûr, on essayait de trouver la meilleure route possible, on essayait de passer à la bonne saison, hein. Il y a quand même des questions de saison. Traverser par exemple l'océan Indien pendant la mousson, c'est très compliqué déjà avec un porte-container. Donc il fallait trouver la bonne saison, on avait des routes qui nous paraissaient quand même. On travaillait là avec Météo France, on avait le soutien de la France et de Météo France qui nous a
Super.
beaucoup, beaucoup aidés. Mais c'est quasiment impossible sur des traversées océaniques de plus de 6 000 km d'être sûr que vous n'allez pas avoir un orage. Donc on a eu bien sûr un certain nombre de grains, on a eu du mauvais temps, surtout dans l'océan Indien où c'est beaucoup plus compliqué. Mais
Ah ouais.
globalement, on a eu une météo assez favorable. On a eu quand même effectivement, enfin, je dirais trois moments qui étaient assez compliqués, avec des vents à plus de 60 nœuds, des rafales à plus de 60 nœuds,
C'est quoi 60 nœuds pour
à
ceux
peu
qui sont pas avec
près un peu plus de 100 km/h de vent.
Ah ouais.
Voilà. Et bien sûr, pas favorable. On l'avait dans le nez. Ça, c'était lorsqu'on était à l'approche de l'Australie, de Brisbane. Et là, on a dû attendre 3 jours avec une mer qui était avec des vagues de 7 mètres de haut. Elle était c'est des immeubles. Donc, et plus avec pas de soleil. Hein. Donc là, il a fallu attendre, il a fallu faire le dos rond. Mais ensuite, voilà, on a pu arriver, on a pu réussir à rejoindre l'Australie. Donc, ça s'est toujours très bien passé.
C'est ça que j'allais dire, c'est sur la gestion, comme tu disais, de l'énergie qui est uniquement solaire pour tout nourrir, que ce soit l'électronique interne, la navigation, les moteurs, etc. C'était quoi le pourcentage de, on va dire, on met les moteurs, c'est on met les moteurs la journée quand on voit quelques heures. Est-ce qu'on met le moteur que quand il y a du soleil direct? C'était quoi les grandes guidelines?
Alors, on avait développé un logiciel de routage solaire, donc
Ah
avec une
oui.
entreprise française qui s'appelle Adrena, Météo France, une école d'ingénieurs en Suisse, qui était finalement notre logiciel qui nous a permis de naviguer de manière optimum et en toute sécurité. Donc, on a tous les
Ah.
paramètres météo, la prédiction météo, donc le vent, les courants, les vagues, l'ensoleillement.
Ah, super.
Le système connaît la consommation du bateau et il est capable de nous prédire la route à prendre et quelle vitesse il faut prendre. Donc des fois, il fallait réduire la vitesse, consommer moins d'énergie. Des fois, il faut accélérer pour passer une zone de mauvais temps
Ah
la nuit,
ouais.
par exemple, vous voyez, parce que des nuages la nuit, ça a aucune importance, hein, c'est pas ce qui fait de nuit. Donc voilà, donc on a développé un logiciel de routage qui nous a permis de finalement naviguer de manière la plus sûre possible. Naviguer avec un bateau solaire, c'est un peu comme avec un budget. On reçoit de
Ouais.
l'argent et on en dépense. Et bien, si on en dépense trop, à un moment
Ah.
donné, on n'a plus rien dans le porte-monnaie et ça s'arrête. Alors, avec
Belle
l'argent, on peut
comparaison.
faire des emprunts, on peut emprunter. Avec l'énergie solaire, on ne peut pas emprunter. Voilà. Donc,
Et
il faut toujours rester dans une dynamique où il y a toujours suffisamment d'énergie dans les batteries.
justement, c'est quoi cette période d'emprunt? Enfin, pendant combien de temps vous pouviez consommer de l'énergie, et même avec les moteurs, sans recevoir d'argent de la grande banque solaire?
Alors, on avait à peu près 1000 kilowattheures d'énergie, donc ce qui
Ça
nous
me parle
laissait
pas
à peu
trop.
près 3 jours, 3 jours d'autonomie
Ah, complète!
à 8 nœuds. Voilà, 3 jours dans la nuit totale. Voilà.
Ah,
Mais bien
si!
sûr que là, après, alors, le système s'arrête, c'était pas possible, donc il fallait.
Ouais.
Et lorsque vous faites des grandes traversées d'un mois, on est dans une navigation perpétuelle. On aurait pu, avec ce navire, partir et ne jamais revenir. On aurait dû planter quelques patates, quelques salades, et on aurait pu ne jamais revenir. On pouvait faire notre propre eau douce, on aurait pu vivre de manière quasiment infinie sans jamais rentrer. Donc il faut finalement faire attention. On peut pas aller à fond comme ça pendant 3 jours, hein. On faisait vraiment attention pour toujours garder l'énergie en réserve. Le but, c'était de réussir. Le temps
Bien
n'était pas
sûr.
très important.
Ouais.
On était les premiers. Le but, c'était d'y arriver.
Bien sûr. Et tu sais, je pense, voilà, on connaît la mer, on connaît ben, malheureusement les accidents qui peuvent se passer, que ce soit en compétition de voilier, en plaisance, ou peu importe. Quand on a un prototype, on est toujours un peu peur des prototypes parce qu'il y a un espèce peut-être de fragilité. Est-ce qu'il y a eu des casses? J'imagine que pendant 1 an et demi, il y a dû y avoir des casses quand même, les mecs, non? Ou pas du tout? Ou ça a été? Ou est-ce qu'au final, c'est tous les jours, il y a un petit truc à réparer, un peu comme sur un voilier ou c'est...
Alors, bon, un bateau, ça reste quelque chose qu'il faut entretenir en permanence. Il
Ouais.
y a toujours des petites choses qui ne fonctionnent pas. Les plus gros problèmes qu'on a eus, c'est notre système des toilettes se sont bouchées plusieurs fois. Les douches ont arrêté de fonctionner.
Ça, c'est
Et
chiant, ça.
c'est le cas de le dire. Et finalement, les problèmes les plus complexes, ça a été l'apprentissage de cette aventure. C'est que nous, on s'imaginait, voilà, on avait des systèmes solaires complexes, 80 km de câbles, des batteries, hein, probablement la plus grande batterie civile du monde. Et tous les problèmes qu'on a eus, c'était sur des systèmes, voilà, qui existent dans les bateaux depuis un siècle. Les toilettes, les douches, des systèmes de propulsion mécanique pour les hélices. Tous les systèmes high-tech ont fonctionné sans problème de Monaco jusqu'à Monaco.
Ah, tu vois, ça, tu vois, comme quoi, hein, les chiottes bouchées, tu pourras faire un vaisseau spatial, le mec qui va te sortir, fait, écoute, t'as encore bouché les chiottes, hein, c'est chiant, ça, on n'y arrive pas. Il y a des choses comme ça qu'on arrive à faire des choses incroyables, des téléphones qui reconnaissent ton visage pour se déverrouiller. Par contre, un vieux copier-coller à faire avec le doigt, non, ça, c'est, tu vois, c'est des petits trucs basiques, ça change, ça n'avance pas toujours. J'ai vu que le parcours, quand même, il est passé dans des zones qui sont réputées. En tout cas, du grand public comme moi, comme étant dangereuse. Notamment, je pense à la piraterie, parce que vous êtes passé pas loin de la Somalie, vous êtes passé vers l'Indonésie, où il y avait aussi beaucoup de piraterie, où les cargos se font souvent, souvent, les bateaux de plaisance, hein, les yachts se font souvent attaquer. Est-ce que vous, ça a été? Est-ce qu'il y avait une précaution à ce moment-là? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça a été quoi votre attitude par rapport à ces zones-là?
C'est vrai que lorsqu'on fait un tour du monde, il y a des zones qui sont un peu plus compliquées que d'autres. Par exemple, les Caraïbes, la région du Panama, et puis de la Colombie, là, c'est des zones qui sont un petit peu plus délicates. Mais globalement, Atlantique-Pacifique, ça reste relativement simple. Dès qu'on arrive dans l'océan Indien, les choses se compliquent, avec soit de la piraterie, hein, donc des gens qui vous prennent en otage pour obtenir une rançon, soit, je dirais plus, des bandits qui viennent et qui vous prennent ce que vous avez à bord. Ça, c'est plutôt du côté, voilà, de la Malaisie, Golfe de Thaïlande, voilà, mer de Chine. C'est un peu plus compliqué. Donc, il a fallu gérer ça de la manière la plus optimum possible. Un avantage avec
On
ce
avait un fusil à
bateau.
pompe chacun, voilà.
Non, alors ça, c'est pas, disons, un exemple que peut-être tu connais avec le Seamasters de Peter Blake, hein, sur le bateau de Jean-Louis Etienne, qui aujourd'hui est Tara. Il avait un fusil à pompe, il est mort. Donc non, c'était pas du tout l'objectif de nous-mêmes être armés. Au contraire, on a utilisé la furtivité. Un bateau solaire, c'est pas de bruit, pas d'émission. C'est donc lorsqu'on naviguait dans des zones compliquées, on naviguait tout feu coupé, tout feu éteint. On passait à côté des pêcheurs dans des zones assez compliquées, mais personne nous voyait. On était complètement inconnus. On coupait notre AIS, on naviguait de manière un peu
Merde.
furtive, on va dire, hein.
Furtive avec un bateau de 30 mètres de long, quoi.
Alors, furtif pour des pêcheurs qui n'ont pas de radar. Bien sûr, au radar, on avait un spot qui aurait dû être énorme. Mais voilà, personne nous en a jamais eu de problème. D'ailleurs, on a toujours resté assez
Non,
discret.
mais c'est trop
La
cool.
partie du golfe
Espion, les
d'Aden,
mecs.
avec un bateau qui avait un look assez à la James Bond.
Ouais, c'est ça.
Donc voilà, apparaît la partie du golfe d'Aden. Donc là, effectivement, c'est la corne de l'Afrique entre la Somalie et le Yémen,
Ouais,
la
ouais.
remontée de la mer Rouge, l'Érythrée, l'Arabie Saoudite. Là, c'est beaucoup plus compliqué. Et là, on avait des soldats qui étaient à bord.
Ah.
Voilà, on a été, on avait mis des fils de fer barbelés, on avait 6 soldats équipés, armés, des tireurs d'élite, donc des anciens fusiliers commando marine qui étaient
Yes.
à bord de notre navire. On avait des gilets pare-balles, on avait fait ce qu'on appelle une zone totalement protégée dans le bateau, avec où c'est qu'on pouvait se
Ouais,
mettre à
un
l'abri.
bunker, ouais.
Voilà, au cœur du navire, c'était dans la cuisine en l'occurrence, hein.
Bah tant qu'à faire.
Voilà,
On peut se faire une petite
donc.
pizza, hein, étant pris en otage, pris
Effectivement. Donc là,
d'assaut.
il a fallu s'organiser et je suis d'ailleurs très heureux parce que ça aurait été pour moi dramatique qu'on doive se défendre, qu'on doive blesser des gens, même si c'était des pirates. Hein, ça aurait
Bien
été
sûr.
dramatique. Donc là, on a vraiment pu passer cette zone, 1 800 km, à peu près un mois. Sans... Alors, on a croisé 2 bateaux de pirates, mais ils ne nous ont pas attaqué. Ils ont vu qu'on était prêt à se défendre, prêt
Ah, vous les avez
à...
eus? Pourquoi? Attends, me dis pas que t'as croisé un bateau pirate comme dans les dessins animés. Il y avait un truc avec la tête de mort là. C'est qu'est-ce
Alors,
que
c'est le problème, c'est qu'aujourd'hui, les bateaux de pirates, ils ne ressemblent pas à des bateaux de pirates. Ce sont des bateaux de pêcheurs qui ont été volés à des pêcheurs. Et puis, donc, on a pu faire des photos des bateaux qui se sont approchés pour venir observer notre navire. On a pu envoyer ces photos au commandement de l'Alindien, qui est la force internationale qui est présente dans la golfe d'Aden. Et on nous avait confirmé, voilà,
ces mecs-là,
c'est un
ok.
bateau mère voilà, de pirates. Donc, ensuite, ils ont vu un hélicoptère pour blanchir la zone. Mais on n'a jamais été attaqué et on n'a pas dû se défendre.
Génial. Est-ce que c'est bête, mais c'est juste par curiosité. À chaque fois que vous changiez de pays, entre guillemets, de eaux internationales, vous changiez de soldats parce que c'était les soldats du pays dans lesquels, dans les mers dans lesquelles vous étiez, ou c'était un espèce de groupe spécialisé pour ça?
Alors, on était un bateau sous pavillon suisse. Donc, fait sur un bateau à pavillon suisse, on en est en Suisse. Et dans
Oui.
les eaux internationales, vous êtes sur territoire suisse. Donc, on a eu une seule équipe de soldats qui étaient des soldats français qui se trouvent en fait à la retraite, qu'on a engagés via une société de sécurité privée
Ah, ok,
qui respecte
ouais.
des règles extrêmement sévères d'engagement. Voilà, on ne prend pas des mercenaires qui vont tirer dès qu'ils voient un pêcheur. Parce que ça, c'est pas non plus
Non, mais c'est intéressant.
notre
Ok,
terre.
très bien. C'est à travers des sociétés privées qui sont spécialisées.
Et on les embarque en mer, c'est assez fou, hein. Il y a un bateau, hein, voilà, on embarque, là, on ne peut pas embarquer l'armement à terre, donc on embarque l'armement en mer, et on a laissé les soldats au milieu de la mer Rouge sur un bateau avec l'armement, on les a déposés en pleine mer.
Oh. Et après les mecs, bah moi, ciao, hein, rentre à la nage, avec le petit zodiaque.
Non, alors c'est un bateau, en fait, c'est un bateau assez important, où c'est qu'ils restent sur ces
Ouais.
bateaux-là, puis après ils reprennent un autre navire qui descend, et ils font des allers-retours
Ouais,
comme
je pense que ça
ça.
va être des
Entre,
procédures.
voilà, entre le sud de la mer Rouge et puis le détroit d'Ormuz.
Qu'est-ce que, si on devait un petit peu, tu vois, faire le scénario, l'espèce de storyboard rapide de cette aventure avec... Des grands faits, tu vois, les grands moments clés de cette année et demie d'aventure entre les grands, je sais pas, les grands moments de joie, les grands moments peut-être de tristesse, de peur. C'est quoi les grandes étapes qui te reviennent en tête?
Alors pour moi, les étapes les plus incroyables, bien sûr, il y a la traversée du canal de Panama. Hein, donc c'était extraordinaire. C'est la première fois que finalement on faisait une navigation transcontinentale solaire. Alors bien sûr, quand vous êtes les premiers, l'Atlantique et le Pacifique avaient déjà été traversés en bateau solaire. Par contre, personne n'avait passé le canal de Panama. Personne n'avait même navigué. Aucun bateau solaire n'avait navigué dans l'océan Indien. Bien sûr, ça c'est des moments incroyables. Le canal de Panama, passer ses écluses. Passer à travers la Culebra, donc les montagnes, ouais, on va dire, voilà, la chaîne de montagnes qui
Ouais.
traverse l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud. Bon, c'était un moment complètement fou. Et après, voilà, les Marquises, la traversée des Marquises, arriver aux Marquises après un
Ah
mois de
ouais, les
mer.
Marquises. Ah
Les
ouais.
Marquises, ça,
En
je pense, un des
Polynésie.
moments en Polynésie. C'était vraiment, là, voilà, partout où on s'arrêtait, les gens venaient voir ce bateau, ils montaient à bord, ils nous offraient des fruits, il y avait des enfants sur les flotteurs. C'était extraordinaire.
Ah, il y a des grandes étapes. Ouais, c'est vrai que j'ai eu. Alors, j'ai pas découvert les Marquises, mais je suis allé en Polynésie il y a pas si longtemps pour la première fois. Et en fait, c'est vrai que c'est. En fait, il y a une énergie là-bas qui t'enveloppe une belle énergie, en fait, qui t'accueille. On m'a dit que dans les Marquises, c'est encore plus particulier parce qu'il y a encore cette culture un peu tribale à l'ancienne, très océanique, très polynésienne. Et ça, ouais, ça doit être un truc de fou, quoi, avec des gens qui arrivent, ça grimpe de partout, allez, viens, prends des fruits, c'est du poisson, ça doit être assez incroyable. Est-ce qu'il y a eu... Vous étiez combien à bord du bateau, l'équipage? C'était combien?
On était 4 membres d'équipage à bord du
Ouais.
bateau. Bien sûr, pendant la traversée du golfe d'Aden, on avait des
Oui, oui.
soldats, on était un peu plus, mais on
Oui.
était 4 membres d'équipage. Il y avait un capitaine, il y avait un bosco, donc une personne qui s'occupe de la gestion, on va dire, l'entretien du bateau, un ingénieur de tout ce qui était électrique, et moi-même qui étais le chef d'expédition et l'initiateur du projet.
Et le côté humain, comment ça a été géré le côté humain? Parce que, encore une fois, dans un lieu de promiscuité, parce que même s'il y a 300 mètres carrés pendant un an et demi, ça peut devenir, bon, même s'il y avait des escales, est-ce que ça s'est bien passé? Qu'est-ce qui a été? Qu'est-ce qu'il y aurait pu être amélioré? Qu'est-ce qui a été amélioré peut-être avec le temps? Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu as peut-être appris par rapport à tout ça, à la relation humaine?
Alors ça s'est passé, c'était extraordinaire. D'ailleurs, il y a quelques instants, là, il y a Erwan, un des deux capitaines, qui vient de m'appeler. On a commencé, on était on va dire, des collègues d'aventure. On a
Ouais.
terminé, on était des frères. Donc c'était
Ah, génial.
vraiment incroyable. Bien sûr, il y a un facteur chance parce que les gens, je les ai engagés à l'intuition. Par
Ouais.
exemple, Patrick Marchessault, le capitaine, j'avais vu dans un reportage de Thalassa. Et puis c'est comme ça que j'ai décidé de... Voilà. Donc, mais c'est vrai que c'était... Alors, il faut savoir qu'on avait beaucoup de travail. Hein. On était quatre pour gérer un bateau de cette taille. Il fallait
Ouais.
bien sûr faire fonctionner le bateau, s'occuper de la navigation, préparer les escales, s'occuper de la communication. On faisait un bloc par jour, faire des images, des photos. On travaillait 16 heures par jour. C'était extrêmement intense.
Bien
Et on
sûr.
avait, chacun de nous avait besoin de l'autre. Donc ça
Ah.
simplifie énormément les choses. Et puis, vous n'avez pas le temps pour faire des histoires parce que vous travaillez 16 heures par jour.
Ouais.
Donc, vous ne travaillez pas, ben,
Oh
soit
putain,
vous
t'as plus
dormez.
l'énergie. Ah,
Voilà, on n'a
vas-y,
plus.
tu me
Voilà.
saoules, vas-y. Allez, on y
Voilà.
va.
Donc, on concentre son énergie sur ce qui est important. Et c'est vrai qu'on a appris à se connaître, on a appris à avoir beaucoup un grand respect mutuel. Et puis voilà, on était finalement, c'est dommage, on aurait dû faire un deuxième tour du monde parce qu'à la fin de ce tour du monde, on était vraiment prêt pour partir.
Ah.
On avait tout ce qu'il fallait, on avait l'expérience parce qu'on est parti un peu à l'arrache. Hein. Je me souviens très bien que c'est juste avant le départ qu'on a été vite chez IKEA acheter des meubles parce qu'il n'y avait pas de meubles, il n'y avait pas de canapé. Donc on a fini de préparer le bateau pendant le tour du monde. Hein. C'est au
C'est
fur
ça.
et
Il
à
y a une
mesure
petite
qu'on
escale là,
avançait. Hein.
apparemment, il y a un magasin sympa de déco là. Vas-y, on va s'arrêter là au port. C'est un peu
C'est
ça.
exactement ça. C'était IKEA Barcelone où on a acheté les derniers meubles avant de partir.
On leur fait un bisou. J'aimerais revenir sur le côté humain et sur ton côté, je dirais, personnel humain. Qu'est-ce que cette aventure, c'est pas rien quand même, un an et demi, de réaliser un rêve, de réaliser une prouesse scientifique et de s'immerger H24 dans ce projet-là pendant un an et demi. Toi, ça t'a apporté quoi en termes personnels? C'est quoi les leçons que t'en as tirées?
Bon, tout d'abord, ça a été pour moi un autre moyen de voyager. Donc, j'ai toujours apprécié voyager, mais j'étais plus, je dirais, voilà, un voyageur qui partait et puis qui profitait de rencontrer des gens, de découvrir des nouveaux paysages. Mais j'étais pas impliqué finalement. J'avais pas une fonction. Et ben voilà, de devenir, entre guillemets, restons modestes, mais un explorateur, de faire de
Ouais.
l'écologie expérimentale, ben c'est une manière totalement différente de voyager. En plus, sur un bateau, on se déplace avec son bureau, et puis les gens vous accueillent de manière totalement différente. Et puis, ben certes, vous voyagez, mais le voyage n'est pas le but. Le voyage n'est pas le
C'est
but.
le moyen.
Je dirais, c'est un moyen pour, voilà, pour vous engager de manière altruiste, pour essayer de faire quelque chose pour protéger la planète, la biodiversité et le climat, ce qui veut dire que vous rencontrez les gens de manière totalement différente. Et maintenant, pour moi, c'est quasiment impossible de voyager sans ce genre de but. Alors, je fais toujours
Ah.
des fois, j'appelle plus ça des vacances, mais sinon, il faut que ça ait un but, il faut qu'on organise quelque chose, il faut qu'on participe à quelque chose de la vie locale, il faut qu'on apporte quelque chose, qu'on vive quelque chose avec les gens dans les pays dans lesquels je voyage. Donc ça, c'était la première chose qui, pour moi, je pense, la chose la plus importante.
Ok.
Ça a changé mon paradigme, du voyage.
Et si tu devais justement, alors tu vois, c'est un peu bizarre comme exercice, mais te décrire en à la troisième personne et de se dire, le Raphaël d'avant cette expédition, il était comme ça, et le Raphaël d'aujourd'hui, il est plutôt comme ça. Pour que les gens comprennent aussi l'impact que ça a pu avoir sur toi.
Alors, c'est un peu compliqué de répondre comme ça, mais c'est vrai que bon, tous les voyages, c'est ce qui m'a changé. Hein. J'étais, je pense, raciste et xénophobe quand j'étais adolescent. Et
Ah ouais.
c'est les voyages qui m'ont permis de changer, qui m'ont permis de me rendre compte que, voilà, lorsqu'on voyage, des gens m'ont aidé. Et peut-être c'est
Génial.
ça, je crois, qui est resté encore et qui est imprimé encore plus fort en moi. C'est qu'avec ce tour du monde, avec ce voyage, partout où on a été, on nous a apporté assistance. On a toujours été extrêmement bien reçus. Et ça, c'est quelque chose qui m'a encore plus changé. C'est cette relation
La
avec les gens,
bienveillance.
la bienveillance, la prise de conscience aussi. Et j'ai un souvenir qui m'a marqué, c'est au Galapagos.
Ouais.
On a pu organiser avec le WWF une visite du bateau. Et il
Ouais.
y a un homme qui est monté à bord de Planète Solar, qui avait la peau brûlée par le soleil, qui avait je ne sais pas quel âge, qui était très âgé. Et qui m'a dit, eh ben maintenant de voir que finalement le monde occidental, les pays développés s'engagent avec des projets comme ça pour faire naviguer des bateaux à l'énergie du soleil, eh ben c'est un signe extrêmement rassurant. Je me sens rassuré de voir la prise de conscience qui arrive aujourd'hui dans les pays en voie de développement. Ce n'est pas ces mots-là qu'elle a utilisés, ce sont les miens, mais ça, ça m'a marqué. Je me suis dit, voilà, ça... de voir aussi l'attente finalement des pays en voie de développement. C'est nous qui avons développé cette technologie, c'est nous qui les avons mis dans cette situation difficile. On doit maintenant être responsable et on doit tout faire pour les protéger.
Génial, génial. Est-ce que justement, sur la façon d'aborder l'exploration, la façon, je dirais même, pour le grand public, d'aborder le voyage, comment tu le conçois, toi, aujourd'hui, surtout avec... Bah déjà, toi, tu étais déjà dedans, la preuve, hein, si c'est, ça te prenait au trip, c'est pour ça que tu as fait ce projet. Aujourd'hui, c'est encore plus vrai que jamais, on s'en rend compte. La pandémie n'est pour moi qu'un déclencheur supplémentaire parce que la planète, elle envoyait des petits cyclones, des incendies apparemment, pourtant assez puissants, mais personne ne voulait vraiment se dire... Tant que ça ne brûlait pas aux portes de chez eux, ça ne prenait pas vraiment conscience. Voilà, là, on envoie une pandémie, ça met tout le monde d'accord. Comment tu penses qu'aujourd'hui, il faut appréhender cette exploration de demain, ce tourisme de demain? Est-ce que tu as une idée là-dessus? Tu as une position?
Alors, je dirais qu'il y a une différence fondamentale entre le voyage et l'exploration. Et c'est peut-être ça qu'on doit essayer de changer. Le voyage et l'aventure, d'ailleurs, c'est plutôt... on poursuit un but plutôt individuel.
Ouais.
Voilà. On est dans une recherche de soi-même, on poursuit un but individuel. Et peut-être que l'exploration et le voyage de demain, ça devrait plus poursuivre un but collectif. Bien sûr, il y a une conséquence, on doit quand même, bien sûr, se faire plaisir, c'est aussi important. On ne doit pas seulement être dans une dynamique altruiste, mais si dans le monde de demain, on peut déjà être plus responsable, on peut essayer de limiter le plus possible l'impact sur l'environnement. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus prendre l'avion, hein, mais d'essayer de réfléchir, ok, ben, au lieu d'aller chaque année en Amérique du Sud ou en Asie, ben, je vais peut-être aller tous les deux ans, puis je ferai un voyage un peu plus long. Ça revient au même en termes de nombre de jours de voyage. Par contre, on aura un impact qui sera beaucoup moins important. Mais d'avoir cette vision altruiste et aussi d'essayer, lorsqu'on se déplace, d'essayer d'apporter quelque chose pour l'intérêt commun, c'est quelque chose qui pourrait vraiment changer la dynamique de l'humanité et peut-être permettre aux jeunes de rêver à nouveau des voyages.
J'adore cette réponse et je vais reprendre une phrase que j'aime bien dire ces derniers temps, c'est qu'est-ce que tu rends à la destination que tu vas visiter? C'est-à-dire que souvent aujourd'hui, ben, et c'est le cas, on va pas se le cacher, tu vas découvrir un lieu de vacances, de voyage, même un peu d'expédition, si tu dis expédition grand public, hein, on se comprend, et tu vas prendre finalement. Tu vas prendre finalement du lieu parce que tu vas te permettre de toi te dépasser, de toi prendre du plaisir, te détendre, t'amuser, peu importe. Mais c'est très égocentré. Et tu fais que prendre de la situation, de l'environnement, de la biodiversité. Et il n'y a pas encore ce concept, comme tu dis, je pense qu'il faut l'intégrer de plus en plus, de se dire, même si tu pars 15 jours, sur ces 15 jours, combien de jours tu peux accorder à donner de ton temps, donner même des moyens pour rendre à la destination qui t'a apporté, que tu vas découvrir. Et c'est, je pense que le voyage, on le prend aujourd'hui, on l'a toujours abordé comme je vais aller là-bas pour prendre du plaisir, on va le résumer comme ça. Comment aujourd'hui tu repenses le voyage pour dire, voilà, comme on disait au début, le win-win. Ok, je vais te prendre un peu parce que ça a l'air top et ça m'intéresse, mais avant même d'y aller, je vais déjà changer à ce que je vais t'apporter. Et c'est pas, quand je dis apporter, ces grands relents de colonialisme, tiens, petit enfant, je te file 3 t-shirts. Tu vois, et tu vas pouvoir t'habiller, c'est de se dire vraiment, ok, je vais peut-être prendre contact avec des associations qui sont là de façon pérenne, de quoi ils ont besoin, qu'est-ce que je peux leur apporter, est-ce que c'est peut-être 2 heures de mon temps parce que c'est un cours d'informatique, des professeurs qui sont sur place qui ont besoin d'un upgrade sur leurs skills, c'est peut-être les enfants, il y a plein de choses, mais c'est en amont réfléchir à ça avant d'y aller, et je suis entièrement d'accord avec toi, je pense qu'il faut repenser le voyage dans ce sens-là. Il y a des petites questions avec lesquelles j'aime bien terminer ce podcast, un petit peu traditionnel. La première, c'est si je te file les clés de la DeLorean pour remonter dans le temps et pouvoir revivre un seul moment de ce fameux tour du monde en bateau à énergie solaire, ce serait lequel ?
Ce serait le moment où, après 25 jours de mer, où on n'a pas vu, on n'a vu aucune terre, on n'a vu aucun signe de vie, on arrive... aux Marquises, on ressent de nouveau l'odeur de la forêt, on voit du relief, on voit des montagnes, et on arrive là dans cette crique extraordinaire, et on a quitté l'Amérique du Sud, et là on arrive, on débarque, On voit des gendarmes français et 10 minutes après, on mange une crêpe, on boit un Orangina dans une roulotte. Voilà, c'était complètement irréel, c'était complètement incroyable. Après un mois passé au milieu de l'élément liquide, de se retrouver de nouveau sur une terre, manger une crêpe, un Orangina, c'était la crêpe la plus incroyable, l'Orangina le plus incroyable de toute ma vie.
Oh. J'ai eu le sucre dans la bouche là, je te jure, le goût du sucre dans la bouche. Une petite question qui m'intéresse, c'est auquel on pense pas souvent, mais quand tu vis un moment pareil, je pense c'est important de l'aborder. Comment on fait pour gérer un retour? Est-ce qu'il y a des tips? Parce que j'imagine que c'est comme quand t'accouches, t'as une espèce de chute d'hormones, t'étais au taquet pendant 9 mois quand t'es une femme, là c'est 1 an et demi quand t'es navigateur. Là il y a tout qui redescend d'un coup. C'est quoi tes conseils pour, parce que je pense que chacun à son niveau a des moments un petit peu d'up comme ça, de boost d'adrénaline, parce que chacun a ses petites aventures. C'est quoi le conseil que tu donnerais aux gens qui ont fini de boucler quelque chose pour rebondir et pas finalement tomber un peu dans la dépression?
Bah, je pense que ce qui est important qu'on fait ce genre d'aventure, c'est d'accepter que si on vit des moments qui sont extrêmement hauts,
Ah.
on ne peut pas rester à on peut pas rester à ces moments-là. D'accepter aussi que lorsqu'on fait des premières, c'est extrêmement excitant, bien sûr, mais on ne pourra plus jamais la revivre. Donc il faut
Yes.
accepter que ce qu'on va vivre, c'est unique. C'est un moment qu'il faut savourer le moment présent. Et puis après, bah, il faut accepter des moments qui seront plus difficiles de toute façon. Et puis il faut aussi accepter qu'il y a d'autres rêves, il y a d'autres aventures à écrire. Et ça, c'est assez important. C'est un peu comme ça qu'il faut essayer de vivre. Et maintenant, c'est toujours facile à dire, mais on va tous vivre des deuils, des ruptures. On doit changer de job. Voilà, il faut accepter ce qui nous arrive et il faut être capable de vivre le moment présent, d'avoir confiance en l'avenir, dans les vents de la vie. Et puis de se dire, voilà, ce qu'on a vécu, c'était magique, c'était extraordinaire. Garder ça dans son cœur comme quelque chose de beau. Qui va nous donner d'énergie pour toute notre vie, sans être trop nostalgique.
Je pense que c'est magnifique ce que tu dis par rapport au fait tu vois, de l'ambivalence avec la société on est dans une société d'endorphines et d'adrénaline addict, tu vois, où c'est toujours d'être dans ce qu'ils appellent en France, ce qu'on appelle en France le kiff, t'es toujours dans le kiff, tu vois. Sauf que ce que je trouve que ce que tu décris parfaitement, c'est que la vie, c'est pas linéaire, et linéaire de façon en bas ou en haut, enfin peu importe où on est, il y a des hauts, il y a des bas, c'est comme la mer en fait, hein. Ça varie. Et je pense que l'accepter, comme tu dis, ben, ça fait partie du processus de prendre déjà beaucoup plus de plaisir dans les moments que tu vis. Dernière question, Raphaël. Si tu devais résumer ce projet incroyable, ce tour du monde incroyable en une punchline, une citation ou une phrase de ta création, ça serait laquelle?
Alors peut-être pour moi, il y a quelque chose qui est extrêmement important, c'est que ce projet, on l'a fait pour sensibiliser les gens sur le potentiel de l'énergie solaire. L'énergie solaire, elle est vraiment extrêmement abondante. Elle peut nous permettre de nous passer des énergies fossiles. Et moi, peut-être alors, ce que j'aimerais que les gens retiennent de ce projet, c'est que finalement, eh ben, notre sagesse d'aujourd'hui, c'est celle qui déterminera le monde dans lequel on vivra demain.
Oh, elle est très jolie celle-là. Elle est de toi?
Je crois qu'elle est de moi.
Eh
Je n'ai
ben,
pas vu
franchement, on
ailleurs, il
n'ira
me
même
semble
pas
l'avoir
vérifié.
inventé.
Elle est de toi, c'est bon, c'est cadeau. Elle est top. Raphaël, merci beaucoup pour ton temps, pour ce partage, pour avoir voulu partager aussi les bénéfices d'une expédition qui était déjà il y a quelques années dans ta tête et que tu as pu réaliser. Comme quoi, aujourd'hui, si vous avez des rêves en tête, allez-y. Rien n'est impossible, faut juste se donner les moyens. Et même quand on est en train de la vivre, bah ça travaillait 16 heures par jour, c'est pas juste les doigts dans le nez, tout se passe bien, on est en plein milieu d'océan avec des panneaux solaires au-dessus de notre tête. Faut se donner les moyens, et quand on croit en quelque chose, quand on croit en des belles valeurs, voilà, il y a toujours un chemin. Il y a toujours un chemin. Évidemment, si vous voulez retrouver encore une fois toutes les photos, toutes les façons d'aller retrouver les infos sur Planète Stratos, hein, mais aussi sur le futur projet. Parce que j'ai
Planète
l'impression.
solaire.
Planète Solaire! Et là, c'est
Planète
Solar
solaire
Stratos.
et Solar Stratos.
C'est celui
Voilà.
qui vient.
Et
Mais
puis
moi, j'ai envie
peut-être
d'arriver sur le
aussi,
prochain. J'ai envie d'arriver sur
voilà.
le prochain. C'est ça mon
Et peut-être
problème.
aussi dire aux gens qui nous écoutent, c'est que, alors nous, on a fait un tour du monde en bateau solaire, c'est génial. Pour l'instant, ce n'est pas encore possible de faire un tour du monde en bateau solaire. Voilà. Mais il y a beaucoup de bateaux solaires aujourd'hui qui naviguent à Bali, en Amérique du Sud, aux Galapagos,
Ah
sur
ouais.
à Manaus, au Brésil, où on peut remonter un bout de l'Amazone. Donc maintenant, c'est possible, et demain, ça sera encore plus possible de naviguer, de voyager avec des bateaux électriques et solaires. Donc voilà, ceux qui le peuvent, bah, c'est une expérience à vivre.
Tu vois, et comme quoi, c'est ça que j'aime bien, c'est que grâce à des gens comme toi qui ont fait des prototypes extraordinaires, bah, 10 ans après, c'est le grand public qui a accès. Donc voilà. Encore une fois, merci beaucoup, Raphaël. Internaute, des petites dédicaces en story pour nous dire comment t'as apprécié ce podcast ou où tu l'as écouté. Peut-être au bord de la mer aussi, peut-être en train de faire ta vaisselle. Ça me fait toujours marrer les petites dédicaces. N'hésite pas à en faire. Et moi, je te dis à très vite. Merci encore, Raphaël.
Merci Alex, salut.